carrefour des arts.
On retrouve Priscille Lafitte.
Bonjour, nous recevons aujourd'hui le lauréat du Grand Prix d'architecture de l'Académie des Beaux-Arts. Il s'agit d'un jeune architecte âgé de 30 ans, Étienne Fer. Bonjour.
Bonjour.
Également avec nous dans ce studio, Michel Folliasson, membre de l'Académie des Beaux-Arts, président du jury du Grand Prix d'architecture. Bonjour Monsieur Folliasson.
Bonjour.
Merci
madame.
D'être là. Vous êtes beaucoup investi dans ce Grand Prix que vous présidez.
Oui, je me suis investi parce que par nostalgie, j'étais patron d'atelier pendant une quinzaine d'années à Nancy. Et j'ai toujours regretté ma vie active d'architecte, m'ayant pas permis de continuer à prodiguer mes cours, d'autant qu'ils se prodiguaient à 400 km de distance, et qu'il y allait deux fois par semaine, ça devenait vraiment impossible. Mais par contre, j'ai toujours eu cette nostalgie. Quand j'ai eu la chance d'être élu à l'Académie, j'ai vu qu'il y avait un grand prix d'architecture, et que ce grand prix d'architecture était un moyen de reprendre contact avec les jeunes, et je me suis précipité dessus. Et ce Grand Prix était aussi un effet de nostalgie, car en 1968, notre ministre de la Culture de l'époque, André Malraux, d'un trait de plume, a supprimé le Grand Prix de Rome et l'action de l'Institut dans le cadre de l'enseignement d'architecture. Et en 1975, mes confrères de l'Académie des Beaux-Arts ont eu l'idée de faire renaître un peu ce Grand Prix sous une forme un peu différente, qui était le Grand Prix d'architecture de l'Académie des Beaux-Arts, et qui donc est un peu l'héritier du Prix de Rome, et d'autre part, qui est basé sur une conception un peu différente, puisque nous recherchons surtout l'esprit d'innovation, mais aussi l'esprit de grande composition et la clarté des plans, donc la recherche d'un parti architectural, ce qui n'est pas toujours le but essentiel de l'enseignement de l'architecture actuellement.
Alors, on va venir spécialement sur ce Grand Prix 2006. Grâce à ce Grand Prix, vous avez gagné 25 000 euros, mais ça, on va y revenir plus tard. Venons-en déjà sur le déroulement de ce prix et déjà sur les contraintes de départ. Il s'agissait donc d'imaginer un palais de l'Union européenne des 25 nations, un projet qui devrait virtuellement se situer au Luxembourg dans un grand espace de verdure. Quelles contraintes déjà de départ vous avez fixées, Monsieur Folliasson ?
Ben écoutez, ce Grand Prix est une épreuve qui se déroule en trois actes. Le premier acte, qui est une esquisse qui se rend en dehors de l'Institut, est une esquisse qui a trait au programme, mais qui n'est pas vraiment le programme, parce que nous pensons que tous les étudiants, en particulier les architectes, c'est un peu différent, mais les étudiants qui sont dans le cadre de leur unité pédagogique peuvent se faire aider, y compris par les patrons, etc. Ce qui n'est pas gênant pour ce qu'on a fait, ce qui est même peut-être intéressant au niveau de la vie de l'atelier, mais qui par contre peut éliminer l'idée réellement personnelle. La deuxième épreuve est une épreuve faite sur le programme de l'ensemble, et cette deuxième épreuve se déroule alors en loge pendant 20 heures, et les candidats sont seuls, et les idées qu'ils émettent sont des idées personnelles.
Pendant 20 heures.
Par exemple, cette année, la première épreuve, c'était le symbole de l'Union européenne, c'est-à-dire c'était donc un ensemble plus ou moins architectural, structurel, sculptural, et c'est à partir de là que nous avons sélectionné sur les 49 rendeurs, nous avons sélectionné 20 participants. Ces 20 participants à deuxième étape, nous avons sélectionné 8. On doit en sélectionner 10 maximum, on n'a pas pu en trouver 10, donc on a pris les 8 meilleurs. Et ensuite, ces 8 ont eu plusieurs mois pour travailler et finalement rendu un châssis. Alors, si je puis dire, je vais revenir, si vous voulez, sur la conception de cette année. Mm-hmm. Parce que je m'occupe depuis un certain nombre d'années du Grand Prix et il y a 3 ans, j'ai introduit l'utilisation de l'outil informatique. Et j'ai même eu du mal à convaincre mes confrères de ma section d'architecture dans l'Académie des Beaux-Arts. Beaucoup étaient réticents. Et j'ai emporté quand même cette décision parce que j'ai dit, je ne vois pas pourquoi au 21e siècle, on fait travailler les gars avec des méthodes du 19e siècle. Et en fait, on faisait un châssis de 6 mètres de long par 3 mètres de haut sur lequel il y avait un travail incolossal, le truc, avec ce qui s'est quand même un peu simplifié avec l'utilisation de l'outil informatique. Mais ces garçons sont tellement doués qu'ils sont arrivés à faire une expression fantastique, tant et si bien que finalement, dans ce châssis de 6 mètres par 3, on finissait par perdre l'essentiel. Et à plusieurs reprises, j'avais réuni les derniers concurrents avant l'épreuve et je leur avais dit « Perdez pas tout votre temps à chercher l'expression, mais cherchez le parti architectural. » Parce que là, ça, c'est la justification de l'architecture. Le parti architectural, c'est-à-dire les dispositions des différents éléments du programme rassemblés entre eux pour faire un bâtiment digne de ce nom qui reçoive bien les gens, dans lequel on a la sensation agréable de bien travailler si c'est un lieu de travail, de bien se réjouir, etc. etc. Bref. Et cette année, donc, voyant un peu cette dérive, j'ai proposé à mes confrères qui ont été d'accord de changer le rendu et de ne faire plus qu'un châssis de 2,40 m par 2,50 m, ce qui est déjà important, dans lequel il y aurait simplement un plan, une coupe, un plan d'ensemble et une façade, et pour le reste d'avoir, de fournir un CD-ROM dans lequel il y ait 6 minutes de plaidoirie pour justifier le parti retenu. Et c'est la première année où on a fait ça, et je demanderai quelles sont les réactions de notre premier Grand Prix, s'il a trouvé ça intéressant, mais j'ai pensé que c'était cerner de plus près la réalité des choses, et d'autre part, comme pendant toute cette dernière épreuve, il travaille sur l'ordinateur, finalement il y a toute une partie du travail que nous ne connaissions pas. On voyait un résultat qui était ce qu'il était, mais alors vraiment, c'est pour ça que mes confrères, tout de suite, quand j'ai proposé ça, ont été tout à fait d'accord en disant « bah oui, tu as raison, on les fait travailler dans le cadre de l'informatique, on leur demande pas de voir l'informatique, maintenant on va leur demander. » Voilà.
Alors, Étienne Ferrer, comment est-ce que vous avez vécu ce Grand Prix? Déjà, quelles contraintes vous aviez à l'origine? À quel moment vous avez su quel genre de bâtiment vous deviez concevoir? Comment ça se passe?
J'avoue que c'était un petit peu un marathon, mais dans l'ensemble, c'est ça qui est intéressant, c'est de relever un peu le défi que propose M. Folliasson en trois épreuves, comme le rappelait déjà la première épreuve. La difficulté entre la première et la deuxième épreuve, c'était une question d'échelle. On a été contraint à faire, la première épreuve, un signal pour l'Europe. Et ensuite, on est arrivé...
Un signal,
un symbole pour les 25 nations. Dans un périmètre de 25 par 25, d'une hauteur de 50 mètres, je crois. Et ensuite, il fallait donc trouver une idée forte, un signal, quelque chose qui soit symbolique. Et ensuite, dans la deuxième épreuve, on s'est retrouvé donc dans une salle, pendant 20 heures environ. Et il fallait d'un seul coup organiser 930 000 mètres carrés, je crois, de programme.
950 000 mètres carrés. Pour 28 000 employés.
Donc c'était complètement colossal, on est passé d'une échelle à une autre, et d'un seul coup on s'est retrouvé à aménager un bâtiment qui devait être aussi un espèce de bâtiment symbole, un élément fort, un élément singulier dans le plateau de Luxembourg, le plateau de Kirchberg, et finalement essayer de garder, moi je pensais qu'il fallait essayer de garder un peu la première idée, essayer de coudre finalement première, deuxième, troisième épreuve, et j'avais l'idée dans la tête finalement de faire évoluer une idée depuis la première jusqu'à la dernière épreuve. Et en fait, j'étais moi un peu bloqué, je l'avoue, dans la deuxième épreuve, de cette question d'échelle. Je me retrouvais donc avec l'idée d'un signal, l'idée que j'avais moi depuis le départ, et comment faire rentrer 950 000 m² tout en gardant cette idée-là. Donc les 10 premières heures, je l'avoue, étaient un peu dures, parce que heureusement que vous avez répondu à un moment à toutes nos questions. Il y avait un moment une réunion après quelques heures de lecture du programme. Et là, heureusement, vous étiez là, parce que vous avez tous rassuré. En tout cas, moi, personnellement, vous m'avez rassuré. C'est là où j'ai commencé à travailler l'idée.
C'est d'ailleurs pour ça que chaque année, je lis le programme, je m'en vais. Je lis le programme donc à 7h30, 8h. Je m'en vais et je reviens vers midi pour que... Je pense que chaque concurrent a pédalé plus ou moins dans la choucroute. Et moi, je peux tendre le bras pour...
Quel genre de questions se
sont... très bien senti.
Quel genre de questions se posent à ce moment-là, par exemple?
Alors, tout de suite,
vous, quelle est la question que vous avez posée?
Moi, je vous en souvenez, j'avais posé une question. On avait la plupart des questions tournaient autour des parkings. Il y a un nombre phénoménal de 20 000 places de parking, 12 000 extérieurs, 8 000 souterrains. Déjà, ça remplissait tout le site. Donc, alors, déjà, c'était la première question qui tournait autour. Et ensuite, il y avait, 950 000 m² de programme. C'est difficilement, on ne peut pas l'écrire dans les détails. Beaucoup s'attachaient aux détails du programme, voulaient absolument des questions, genre, mais comment vous voulez qu'on montre tous ces éléments du programme? Et donc, il y avait là, à ce moment-là, plutôt trois directives, trois choses qu'il fallait montrer. Donc, vous nous avez conseillé justement de prendre l'essentiel du programme. Qu'est-ce qui est pour vous le plus important? Comment chercher dans ce programme-là les éléments qui pourraient construire finalement tout de suite
donc,
un aménagement
par exemple une salle de conférence qui serait centrale,
voilà,
des
donc,
choses comme
il
ça.
Il nous a pas dit directement qu'est-ce qu'il fallait retenir, mais il nous a demandé qu'est-ce qui paraît
d'analyser
pour vous le plus
programme
important
en fonction de la recherche des éléments principaux. Parce que l'architecture, c'est d'abord ça. C'est vous avez un programme. Dans le programme, il y a des éléments. Il y a des éléments forts et des éléments moins forts. Si vous mettez tout sur la même rigueur, vous avez une cacophonie incroyable. C'est la poubelle renversée. Le seul moyen de faire de l'architecture, c'est de faire une hiérarchie des éléments. Et cette hiérarchie, vous l'écrivez en plan, vous l'écrivez dans l'espace. Et à ce moment-là, vous avez créé de l'architecture.
Alors, quelles étaient justement vos priorités alors, du coup ?
Alors déjà, donc, cet entretien pour moi était très important, parce que même si vous ne disiez pas des réponses directes, moi je me souviens que vous aviez annoncé deux points. C'est donc de faire une hiérarchie, de sélectionner et analyser un programme, de le rationaliser, de trouver qu'est-ce qui est les éléments importants d'en construire. Et le deuxième point, vous nous avez décrit, je m'en souviens, et c'est là où on a compris qu'il fallait rester dans quelque chose d'un signal de grande hauteur, de monter en hauteur, alors qu'on était tous partis, moi j'étais parti vraiment sur un grand site de 48 hectares, savoir comment je vais pouvoir exploiter ces 48 hectares. Et là, cet entretien, à la suite de cet entretien, j'ai découvert indirectement qu'il fallait finalement, vous parliez de bureaux. Aujourd'hui, on construit des bureaux, donc c'est des éléments, un étage courant qu'on va multiplier après dans les hauteurs. Et c'est là où on a compris qu'il se passe quelque chose en haut qui va monter et il va se passer quelque chose de très fort en bas. Donc c'est là qu'il fallait commencer à tisser un projet par rapport à ce programme-là. Et effectivement, si on avait à étendre ce programme dans tout le site, il aurait fallu plus de 3 jours, je pense.
C'est sûr.
Parce qu'il fallait donc déjà prendre les programmes, les autres programmes, et les mettre sur le site, savoir où ils sont, comment ils se connectent. Et donc, là, je pense que c'était un bon conseil que moi, j'ai pris tout de suite à cœur et que j'ai commencé.
Vous définissez très bien l'affaire, parce que si j'ai fait un programme aussi compliqué et mes confrères m'ont critiqué au niveau du deuxième degré en me disant « tu as fait quelque chose qui est trop compliqué », etc., j'ai dit « mais bon... »
C'est-à-dire qu'il y a eu trop de contraintes,
l'architecture, c'est toujours au départ un nuage épouvantable.
Exactement.
Puis dans le nuage, peu à peu, on découvre les choses. Et je dis « mais c'est impardonnable si je leur donne pas... » en arrière-pensée, le sentiment de la complexité du programme. Donc, plus un programme est complexe, plus il faut répondre par des solutions simples. Et notre premier grand prix présent ici avait le plan le plus simple de tous. Et le plan qui permettait, dans un grand carré, donc d'avoir des définitions, on voyait tout de suite comment on accédait aux parties hautes des bâtiments et comment on se répandait dans un hall gigantesque. Mais gigantesque, mais à l'échelle des 28 000 personnes qui tous les jours y passent, et qui permettaient de rentrer dans la grande salle avec un certain recul. Non pas, vous voyez, par exemple, quand vous voyez l'Opéra de la Bastille. L'Opéra de la Bastille, cet escalier monumental qui aboutit à un trottoir de 3,50 m. C'est
personne
grotesque.
N'emprunte jamais.
C'est une erreur totale de la part de l'architecte. D'ailleurs, c'est une erreur de la part du programmateur de le mettre dans un terrain qui avait cette forme. L'opéra, il a bourré la forme. Bon, donc, passons sur ce problème, ce hiatus de l'architecture contemporaine. Mais par contre, ce qui est très important, c'est que quand on rentre dans un bâtiment, dans un grand bâtiment, il faut qu'on soit à l'aise. Et que, tout naturellement, on découvre l'élément essentiel vers lequel on va. Et notre confrère a justement bien compris que sa salle, qui était un morceau primordial du programme, était la plus libre possible, elle était ouverte, et il y avait simplement ces 4 toyaux qui allaient partir et qui allaient desservir tout le monde dans les étages.
Donc, on va essayer de décrire ce que vous avez conçu.
Alors ça, c'est lui qui va me dire.
Si je comprends bien, il y a une sorte de rez-de-chaussée qui est assez large, duquel montent 4 tours qui en torsion.
En torsion, autour d'un seul axe, donc un axe central. Et ce sont 4 tours qui vont présenter donc à chaque niveau des plateaux libres de bureaux aménagés, mais qui seront du coup orientés à chaque fois de façon différente sur le plateau de Kirchberg. Donc il y a cette idée de faire un plan très clair, dans lequel, s'il y a quelqu'un qui vient de l'extérieur, comprenne tout de suite les espaces, mais qu'il se retrouve dans les étages, finalement, sans le vouloir, orienté d'une façon différente sur un point de vue, une scénographie que présente le plateau de Kirchberg. Ensuite, donc, il y a donc ces deux idées. Le plan, qui est très clair, qui est très lisible, et qui vient commencer à faire, à transformer. Le plan va commencer à transformer, multiplier dans les hauteurs, et à créer une forme, un bâtiment complexe dans ses points de vue. Et va former, ces quatre tours vont former un objet complexe. Ils vont se torser, donc se vriller autour d'un seul axe vertical.
Sans jamais se toucher.
Sans jamais se toucher. La règle que j'ai essayé de donner, finalement, c'est ces quatre tours qui vont se vriller sans se toucher. Bien sûr, je pense qu'il y aura des problèmes de structure que j'essaie d'anticiper avec un noyau central. Donc j'ai créé un noyau central afin que ces quatre tours ne soient pas complètement autonomes, qu'elles forment déjà un ensemble, mais qu'elles se tissent et qu'elles s'accrochent sur un noyau central. Donc l'idée est là, finalement, c'est... un espace, vous l'avez très bien décrit d'ailleurs, je vous en remercie, c'est le plan très clair qui monte dans les étages et qui va se vriller, former finalement un bâtiment et plus en plus complexe dans les hauteurs, qui monte jusqu'à 300 mètres de hauteur environ.
Qu'est-ce qui vous a plu le plus en fait dans ce projet? C'est le fait qu'il y ait cette architecture un peu...
Mais écoutez, je vais vous dire, quand on a jugé, d'abord c'est amusant parce que les architectes qui répondent et les étudiants qui répondent à notre problème donnent des solutions différentes. Et donc il y a une espèce de multiplication de découvertes. Et du côté du jury, c'est pareil. Le jury, chaque architecte du membre du jury a des opinions différentes. Et en tant que président du jury, mon premier but est justement d'orchestrer tout ça pour arriver à conduire vers un choix. Et là, nous avons été étonnés parce que les concurrents sont assez bons dans l'ensemble et nous avons une hésitation sur le choix, sur la classification, pas sur le choix des trois premiers, mais sur la place qu'on devait donner à chacun de ces trois lauréats qui était évident. Et donc, dans le projet de notre ami, ce que nous avons et ce que j'ai mis en évidence en tant que président du jury, c'était la clarté et la simplification de l'ensemble, et en particulier du plan qui était donné. Et à partir de là, la comparaison avec les autres projets, c'était évident. C'était évident que la seule réponse qui était vraiment claire, qui était simple, qui était possible, qui était réelle, c'était le parti du premier Grand Prix.
Eh bien, on marque une petite pause.
Qui porte l'habit vert?
Les académiciens des 5 académies.
Qui est invité en habit vert?
Les académiciens des 5 académies.
Qui s'exprime en habit vert?
Les académiciens des 5 académies.
En habit vert?
Le portrait?
Le parcours?
La rencontre?
Des académiciens des 5 académies.
En direct ou en médiathèque?
Sur Canal Académie.
Étienne Fer, on va peut-être continuer à visiter ce bâtiment
virtuel. Oui, je veux bien
virtuel.
Le décrire.
Extérieurement, si j'ai bien compris, il y a des structures apparentes, métalliques.
Alors, en fait, comme j'ai décrit depuis au départ de l'entretien, il y avait donc la première épreuve. Donc j'ai essayé de garder l'idée forte de la première épreuve, celle qui donnait finalement comme définition du signal, de donner un signal pour l'Europe, un symbole pour l'Europe, au Luxembourg. Et donc j'ai travaillé finalement plus ou moins sur une métaphore de la corde, de finalement des éléments qui s'entrelacent, qui se vrillent ensemble et qui finalement plus on est en forme quelque chose de plus en plus solide. Dans le premier programme, je pense que j'ai choisi plusieurs tours, mais bon, ça faisait 50 mètres, non accessible au public. Et c'était pour moi la force du projet, c'était de prendre des éléments qui se ressemblent, qui ont la même échelle et qui se vrillent pour former un ensemble plus fort encore. Et de là, ensuite, on pouvait ensuite y aménager n'importe quelle scénographie, des couleurs, des lumières, quoi que ce soit. Mais je gardais cette idée, pour moi, qui était essentielle, d'avoir cette métaphore que j'essaie ensuite de continuer dans la deuxième et troisième épreuve. Quoi. Donc, j'ai gardé cette idée-là, et dans la deuxième épreuve, j'ai inséré tout le programme. Mais d'un seul coup, mon signal est devenu bâtiment. Comment je gère cette idée-là, à cette échelle-là, et la complexité du programme, dans un objet qui paraît déjà assez complexe, je pouvais faire qu'un plan et rentrer dans une lecture le plus simple possible afin que finalement l'objet complexe prenne encore plus de valeur. Je ne pouvais pas rentrer dans l'idée de faire un plan complexe on serait devenu dans un chaos total.
Mmh.
Je me suis donné cette contrainte-là. Si je garde mon idée qui paraît complexe de l'extérieur, j'aménage quelque chose le plus clair possible.
À l'intérieur.
Donc je joue avec ces deux contrastes-là. Et je pense que, j'ai essayé d'orchestrer donc ces deux points de vue-là. Et donner finalement un objet qui peut être vu de n'importe quel côté, avec un point de vue différent sur ce bâtiment, sur quelque chose qui est pas... Si j'avais fait un building, effectivement, qui était extrudé jusqu'en haut, quand on le voit de gauche, de droite, il est toujours le même. Parce que ce bâtiment n'est pas palpable tout de suite. Ça n'est pas, je pense qu'il est, il montre une certaine singularité et complexité qui...
Et cette idée-là, vous l'aviez déjà depuis un petit temps, cette idée d'avoir quatre carrés, quatre tours qui sont en torsion. Non,
vous faites référence à quoi ?
Je suis allée sur votre site internet
d'accord.
Et j'ai vu que vous aviez déjà ce projet.
Alors non, ça, ce site internet, j'ai donné l'idée, simplement l'esquisse de cette idée, après la deuxième épreuve, je l'ai mis sur le site internet, sans mentionner évidemment que ça faisait partie d'un concours. J'ai donné 900 000 mètres carrés, je pense, et je l'ai montré le plus abstraitement possible. Je voulais juste esquisser l'idée, et puis je l'ai mis, c'est un travail en cours, donc comme j'ai l'habitude de faire, quand je fais quelque chose à côté, bon, je travaille toute la journée, et dès que j'ai le temps, j'essaie de faire des projets, et bon, j'ai mis en route sur le site internet, juste l'esquisse. Je ne voulais pas montrer le projet.
Bon, sans parler de votre site internet en particulier, est-ce que c'est quand même une idée qui vous trottait dans la tête? Vous aviez ce schéma-là depuis un petit temps?
Pas du tout, pas du tout.
Ça s'est fait le jour même
À la première épreuve.
Ça s'est fait
depuis la première épreuve. C'est quelque chose dont j'ai réfléchi beaucoup et c'est venu instinctivement en lisant le programme, en lisant le...
Il y a un temps, des jours qui s'écoulent entre la première épreuve et la deuxième épreuve. Il y a un temps de maturation, de réflexion.
Non, mais je crois que la démarche du premier Grand Prix de cette année, qui est présent ici, sa démarche est excellente. Parce que Et là, en cherchant le symbole, moi j'avais pensé au départ que le type qui chercherait le symbole penserait à l'architecture après, mais comme il savait pas du tout ce qu'il y aurait comme programme, ça aurait été très difficile de se fixer l'idée. Et j'ai pensé après, et quand j'ai vu son projet, j'ai dit, lui, il a dû faire la démarche inverse, il s'est dit, j'ai trouvé une idée symbole, donc je la garde pour en faire le bâtiment symbole. Et cette démarche a été très intéressante, parce que cette démarche l'a obligé, comme il le dit, à rester simple.
Alors parlons des deux autres lauréats qui sont Julien Roubi et Jean-Sébastien Schwartz, qui ont fait des choses très différentes.
Oui, c'est des choses très différentes, qui ont tous les deux des bâtiments à hauteur. Mais je vais parler du deuxième prix d'abord. Le deuxième prix avait un plan relativement simple, mais pas du tout clair. Était un peu une image d'école. Et par contre, il avait utilisé, c'est le seul qui a vraiment complètement utilisé les possibilités du CD-ROM qui nous était remis, parce que il a fait une analyse complète de son parti en fonction du programme qui était donné, et à l'appui de schémas qui montraient au fur et à mesure. Donc j'ai trouvé qu'il méritait une récompense certaine, compte tenu du fait que d'abord son projet était valable, mais en plus qu'il avait les possibilités, parce que vous, votre argumentation sur le CD-ROM était assez simple. Vous n'avez pas beaucoup développé. Vous aviez un côté sonore, vous, non?
Oui, j'avais un côté sonore.
Oui, bon, parce que c'est le troisième qui n'avait rien de sonore. Et c'était embêtant. Mais donc, ce plaidoyer était très, très détaillé. Donc, autrement dit, on a eu beaucoup de manifestations de son travail informatique. Et c'est pour ça qu'il a été deuxième prix. Il n'avait pas du tout les qualités pour être premier, son plan n'était pas assez simple, son symbole n'était pas assez marqué, c'est devenu un peu anonyme. Mais ce travail-là nous obligeait à trouver qu'il méritait vraiment récompense, donc on l'a mis deuxième.
Et
le troisième,
Jean-Sébastien Schwartz,
le troisième avait une expression un peu confuse, très graphique, et avec un plan simple aussi, mais son châssis était couvert à des échelles différentes d'une espèce de structure dominante, énorme, qui figurait son projet. Il était mieux que tous les autres, il était moins bien que le deuxième et beaucoup moins bien que le premier, donc il était troisième. Et alors à cette occasion, ça m'a permis d'ailleurs de faire remarquer à mes confrères qu'il y avait trois conceptions différentes au niveau de la salle. Il y avait, je parle pas de dans les projets, je parle de la réalité, mais le premier Grand Prix avait si je puis dire, la forme de l'hémicycle parlementaire français. C'est-à-dire tout le monde regarde son champion qui va parler, qui est en face. Le deuxième avait le même principe. Le troisième avait le principe à l'italienne. C'est-à-dire, c'est un théâtre en rond. La vie parlementaire en Italie, c'est du théâtre. On n'avait pas, par contre, nulle part, la théorie britannique. Les Britanniques, à mon avis, sont les seuls qui ont compris ce que c'était qu'un parlement.
Qu'ils se font
le
face.
Parlement, c'est deux qui sont face à face, c'est-à-dire des gens, l'orateur est à droite, bon, il faut bien lui donner une place, mais ensuite, tout le monde parle avec le gars d'en face, on s'interpelle, etc. Autrement dit, ça, c'est fait pour les débats. Nous, c'est fait pour les applaudissements, et les Italiens, c'est fait pour Belcanto.
Vous aviez aussi cette conception-là quand vous avez dessiné votre salle de conférence ?
Effectivement, maintenant que c'est mieux décrit, c'est vrai que quand j'ai vu les autres projets, il y avait ces deux types, ou même trois types qu'on pouvait voir.
Personne n'a présenté le Parlement britannique pour ce projet-là ?
Non, simplement, ce que je trouve, c'est que le Parlement britannique est une expression beaucoup plus démocratique que les autres. Parce qu'il est organisé pour qu'il y ait vraiment des débats dans lesquels il y a deux camps, mais les deux camps sont dans les mêmes conditions et se voient parfaitement, ils peuvent s'interpeller, etc.
Faut pas se cacher, quoi.
Tandis que nous, c'est compliqué. La preuve, c'est qu'on parle de la droite et la gauche, alors que maintenant, la gauche n'est pas forcément à gauche, mais elle est à des étages différents, etc. Hein? Les Italiens, je sais pas comment ils s'organisent, ils doivent tourner.
Vous êtes diplômé aussi de philosophie, hein, si j'ai bien compris.
Oui, j'ai fait un DEA à la Sorbonne.
Pourquoi vous avez voulu...
Alors, je suis sorti de l'école d'architecture donc en 2002, en juillet 2002, et on apprend beaucoup de choses à l'école d'architecture, mais pas beaucoup à écrire nos idées, à mettre en...
Tout à fait vrai.
En mettre sur papier, et finalement, le métier d'architecture, c'est constamment, on règle des problèmes. Constamment, on fabrique des problèmes, et on les règle au fur et à mesure que le projet avance.
Et on les règle philosophiquement.
Non, quand on règle des problèmes en général, quand on commence à penser et mettre en place des problèmes, il est beaucoup plus simple, enfin, c'est mon point de vue, de d'abord les écrire. Quand on les écrit, on a déjà résolu la moitié du problème. Et il faut savoir déjà écrire et savoir mettre sur papier le plus clairement possible quelque chose qui peut être en architecture, mais des idées, même que ce soit des idées sur le design, sur les idées de forme ou les idées de conception de programme, comment on va travailler en équipe, comment on va définir chacun des rôles. Tout ça demande à être d'abord visionné sur papier, écrit sur papier. Une fois que sur le papier posé, on a déjà une moitié des réponses. Il y avait ce point de vue-là que j'étais très motivé par écrire, très motivé par déposer, donc mettre les idées sur le papier. J'avais déjà aussi pas mal de choses qui me travaillaient à l'école d'architecture. On peut pas trouver que des réponses à l'école d'architecture. Il y a un moment, il faut aller s'ouvrir droite à gauche pour aller trouver des bons interlocuteurs à des réponses. Et ensuite, il y avait aussi la troisième chose qui me motivait. Il y a un certain discours d'architecture, une certaine théorie, une pensée de l'architecture. Et je voulais faire une espèce d'état des lieux aujourd'hui sur la... où en est la pensée, où en est la théorie sur l'architecture, comment écrivent certains et comment écrivent d'autres. Il y a les théoriciens d'un côté et les architectes de l'autre, et il y a ceux qui sont archis, qui fabriquent des projets d'architecture et qui écrivent à côté. Et c'est ce genre-là qui m'intéressait, et avec quelle méthode arbore le projet. Et j'ai fait une description, un état des lieux de deux, trois courants aujourd'hui dans l'architecture. Et il y a une effervescence aujourd'hui de la métaphore par analogie. Il y a des sujets, des programmes d'architecture. Donc aujourd'hui, j'aurais pu très bien tomber, c'est un très bon sujet justement, celui de l'Académie d'architecture. Si j'avais aujourd'hui à faire, je donne un exemple de la métaphore par analogie, donc c'était le sujet un peu de mon DE en philosophie, j'aurais pu commencer ce projet-là avec le drapeau, le symbole de l'Europe, et en faire un bâtiment. Je m'éloigne d'une certaine façon de l'architecture, mais je me rapproche du sujet. Et je transforme un symbole qui a été fait pour l'Union européenne en architecture, et qui n'a rien à voir finalement pratiquement avec l'architecture. Et le but, quand je parlais tout à l'heure de métaphore de la corde, je me suis posé la question, d'abord, qu'est-ce que l'Europe aujourd'hui? Comment fonctionne-t-elle et comment doit-elle fonctionner? Qu'est-ce qui pourrait, finalement, comment trouver un objet qui pourrait correspondre à cette idée-là, quoi? Et voilà, ce sont deux méthodes qui sont différentes aujourd'hui, et j'avais besoin, finalement, de décrire, de trouver des exemples autour de l'architecture. Je pense qu'à un moment, il faut partir de l'architecture pour mieux y revenir, et ne pas rester, finalement, dans un sujet de l'Europe, prendre un drapeau ou prendre n'importe quel symbole qui finalement symbolise l'Europe d'un point de vue démocratique, enfin bureaucratique, et en faire l'architecture. Il y a des échelles différentes dans l'architecture, et c'est cela que j'avais envie de décrire et de mettre sur papier.
Est-ce que, monsieur Folliation, cette conception de l'Union européenne, par exemple, dans le bâtiment qu'a conçu Étienne Ferre, est-ce que ça vous apparaît directement? Comment vous trouvez ce symbolisme, vous?
Vous savez, quand on parle de symbole, c'est très souvent baratin, morne pleine. Je veux dire par là que ce qui était important, c'était de trouver quelque chose de singulier. À un moment, comme les membres du jury hésitaient, je leur dis, écoutez, ce qu'il faut bien se dire, c'est que vous faites visiter un ensemble. Vous dites, tiens, ça, c'est la tour Esseau. Tiens, ça, c'est la tour Machin. Tiens, ça, c'est la tour Nicolas. Et bien, ça, c'est la tour d'Europe. Ça, c'est... Non. Il faut que personne se pose d'autres questions. Ils voient, ils disent, tiens, c'est vachement insolite. Ça doit être quelque chose de particulier. Qu'est-ce que ça peut être? C'est l'Europe. C'est fini. Alors, l'histoire de l'Europe, 25 nations, etc.
Mais c'est ce que vous avez fait sentir, qu'il fallait vraiment qu'on se dise, tiens, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui émerge? Qu'est-ce que je vais le voir.
Voilà, c'est ça. C'est exact ça. Et lui, il a très bien compris.
On marque une toute petite pause.
La médiathèque de Canal Academy, c'est plus de 800 émissions en libre téléchargement. Vous avez aimé ce programme? Vous avez apprécié cette émission? Vous aimeriez réentendre cet académicien? Retrouvez cette émission dans la médiathèque de Canal Academy. Le téléchargement est gratuit.
Ce qui est intéressant dans cet entretien avec Étienne Ferre et vous, monsieur Folliation, c'est aussi ce regard croisé entre deux générations d'architecture. Comment est-ce que vous voyez cette jeune génération émerger qui n'est pas dans un contexte de marché du travail facile, ça tout le monde le sait?
Mais écoutez, je crois que les jeunes architectes, d'abord, premièrement, on a tous été jeunes. Et les jeunes ont toujours les mêmes qualités et les mêmes défauts. Mais parmi les qualités, je voudrais pas avoir l'air de faire de la campagne présidentielle, mais je voudrais dire quand même que le travail est l'élément numéro un. J'ai eu trois mots tout à l'heure dans les coulisses avec mon confrère, et je lui ai dit, ce qu'il faut, c'est travailler. Il me dit, mais on passe notre temps à travailler. Et l'architecte est un type qui ne se repose jamais de son cerveau. Il est toujours en train d'élucubrer quelque chose, même... Par exemple, lui, il pense à Paris, sur l'avenir de Paris, etc. Bon, il pense. Mais le subconscient fait tout un travail qui un jour ressortira à l'occasion d'une étincelle. L'étincelle, ça peut être un programme. L'étincelle, ça peut être un problème politique. L'étincelle, ça peut être tout d'un coup, j'ai envie de pousser un coup de gueule, ça va pas, etc. Je disais tout à l'heure, justement, s'il pense à Paris, Paris est une petite ville, c'est un village. 2,5 millions d'habitants, c'est grotesque. Dans toutes les capitales importantes actuellement, ont entre 10 et 15 millions d'habitants. Et nous, on a tout ça aussi. Isolé par un périphérique annulaire. Et tous les plans que j'ai vu faire sur Paris, c'est zéro. Il n'y a pas d'ambition, il n'y a rien. La seule ambition, ça serait que, au lieu de se croire dans une forteresse parce qu'on habite Neuilly, ou dans le malheur parce qu'on habite la Courneuve, eh bien, on soit tous réunis. Or ça, il y a une infrastructure terrible à mettre en place, il y a une révolution à faire. Haussmann est un garçon de course à côté de ce qu'il faut faire maintenant pour arriver à relier. Il y a des pans entiers de villes à foutre en l'air pour pouvoir faire quelque chose de clair et de simple de nouveau et à l'échelle d'une capitale digne de ce nom-là. On a un trésor dans la partie centrale. Delanoë a posé la question, faut-il construire des tours à Paris? Faut peut-être construire des tours, mais pas dans le centre de Paris. Dans le centre de Paris, quand vous prenez un bateau, vous descendez la Seine, c'est absolument merveilleux le spectacle que vous avez. Et il y a une certaine étendue, parce que ça va jusqu'au Sénat, le palais du Luxembourg d'un côté, et ça remonte jusqu'à l'opéra de l'autre, et toute cette zone, elle est bourrée de trucs de plus en plus extraordinaires, merveilleux à voir, splendide, plaisir de l'œil, par les architectes. Parce que c'est les architectes de tous les temps qui ont pensé, qui sont pressés les ménages pour essayer de trouver des solutions. Comprenez, le Louvre, par exemple, le Louvre, qui a 6 architectes majeurs qui ont travaillé sur le Louvre et qui ont fait un palais qui est un palais, qui a beaucoup d'unités, alors que tout est disparate si on regarde dans le détail. Et tout est comme ça dans une ville comme Paris. Donc on a le cœur qu'il nous faut. Mais le reste, c'est n'importe quoi.
Qu'est-ce que vous en dites, Étienne Fer?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec le point de vue de M. Folliation. Effectivement, ça fait longtemps que Paris n'a pas connu de révolution. Ça fait longtemps que Paris, et effectivement, vous parliez d'Haussmann tout à l'heure, et je suis tout à fait d'accord avec vous.
Zéro.
Haussmann a fait vraiment une révolution dans Paris, et depuis, il y a eu très peu d'opérations dans Paris. Les expositions universelles parlaient que de ça, que les grandes villes connaissaient à chaque fois des mutations. Et je pense que depuis le métro, il n'y a pas eu grand-chose dans Paris. Et la question de poser des gratte-ciel, je ne pense pas que ce soit de ce point de vue-là qu'il faut le poser dans son ensemble. Comme vous le disiez tout à l'heure, il faut étendre Paris. Paris a énormément de potentiel. Il faut réutiliser ces potentiels-là, comme le métro. Alors, je parlais du métro. Il y a un réseau de métro. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui payent un ticket, qui voyagent souterrain, d'autres prennent la voiture, polluent toute la journée. Alors, ceux qui prennent le métro font un geste écologique. D'autres font un geste qui pollue. Il y a deux dialogues, deux types de gens qui sont dans Paris. Je pense qu'il faut tout ça, il faut le réanalyser et le redécrire et partir de cette idée-là que Paris a beaucoup de potentiel et il faut savoir le réutiliser d'une façon différente. Je pense.
Mais vous dites qu'il n'y a pas de projet, mais il y a des trucs invraisemblables. Récemment, on avait la prétention de voir les Jeux Olympiques. Enfin, comme on n'a pas joué les Jeux Olympiques comme il faut, on ne les a pas eus. Mais le principe même d'utiliser le terrain des Batignolles pour faire la cité des athlètes, dans laquelle on mettrait les gens, mais c'est méconnaître totalement ce qu'exige le comité des Jeux Olympiques pour installer les gens. C'est un programme spécifique qui est inadaptable pour faire des logements après. Bon, et bien entendu, on avait tout refermé, ce petit monde-là, autour d'un petit espace vert grotesque, hein, en tournant sur ton dos à Levallois, à toutes les banlieues qu'il y a tout autour. Non, c'était une occasion de dire, ben allez, hop, ça y est, là, on tend la main, on les met tout ça, on fout dans l'air, on fait un grand stade, on fait un truc, etc. Mais comme l'arrière-pensée, c'est, merde, 3 francs, 5 francs, 12 francs, oh merde, j'ai pas assez d'argent. Alors c'est fini, on peut pas penser. On pense pas comme ça.
Alors quel temps justement vous allez pouvoir disposer avec ces 25 000 euros? Vous allez justement avoir... ça va vous ouvrir de nouveaux horizons en termes de réflexion? Ça vous donne un peu, peu d'air?
Oui, ça me donne beaucoup d'air. Ça va me donner l'occasion de fabriquer des projets. Donc le problème des concours, c'est qu'on les perd et parfois on ne gagne rien. C'est ce qui m'est arrivé les deux dernières années. J'ai multiplié les concours et puis bon, maintenant ça c'est tombé enfin. Mais je pense que si j'avais pas fait tous ces concours-là auparavant, que je m'étais pas plus ou moins endetté, je pense que je serais pas arrivé aujourd'hui à ce stade-là et à cette motivation de vouloir absolument montrer des projets. Et je pense qu'il faut jamais baisser les bras. Donc maintenant, aujourd'hui que je suis récompensé, je remercie l'Académie des Beaux-Arts. Et je vais réutiliser cet argent-là pour refaire des projets, cette fois-ci personnels, comme je le disais tout à l'heure, Monsieur Folliation, sur Paris, commencer à monter des dossiers, continuer dans l'architecture.
Pourquoi sur Paris alors? Je suis curieuse.
Justement, j'en parlais un petit peu, donc de faire une description de Paris sur ses potentiels et comment réutiliser ses potentiels à Paris. Il y a quelque chose qui nous pollue énormément aujourd'hui, notre place aujourd'hui, alors que je ne suis pas contre le transport individuel comme la voiture. La ville n'a pas été construite pour accueillir autant de voitures. Elle a été effectivement construite pour accueillir des flux, du transport, mais pas pour la voiture, pas pour autant de voitures, ne serait-ce que de partir de la voiture. Alors il y a un problème de pollution inévitable, ça prend beaucoup de place, et c'est dangereux, ça fait du bruit. Donc tous ces points-là, si je les mets bout à bout, ça prend de la place, on construit, on est en train de transformer Paris, on ne sait plus comment transformer Paris pour accueillir toutes ces voitures. Il y a en même temps de la Noé, que vous le rappeliez tout à l'heure, fait aussi son Paris, c'est-à-dire dans le sens où il chasse les voitures de Paris, et ça tout le monde en est conscient, donc on ne peut plus vivre, donc il faut essayer de penser le problème dans le sens où celui qui nous pollue le plus, et d'en faire finalement, de le mettre aux portes de Paris, de faire quelque chose, et d'un seul coup on va avoir de la place, énormément de place dans Paris, libérée. Les réseaux, donc je suis en train de décrire dans les grandes lignes, donc de partir de ce fléau comme de la voiture, et de trouver à la place autre chose, et ensuite se concentrer finalement sur cette strate dans Paris, sur le réseau qu'on a aujourd'hui de transport en commun comme le métro. Le métro pourrait très bien être existant, être là pour aménager des flux de transport dans le sens de livraison et de finalement sortir les gens qui voyagent toute la journée sous terre, les sortir à l'extérieur. On sort des objets comme la voiture, mais réaménager comme on a à Budapest, à Londres, des tramways, des choses, réaménager, réinvestir l'espace extérieur en mettant, en inversant ce qui se passe en dessous vers la surface de Paris. Et je pense que c'est, bon, une grande ligne qu'il faut que j'exploite encore.
Oui, je crois que c'est ce qu'il dit est très intéressant et je crois que c'est important que des jeunes architectes puissent mettre des idées l'une derrière l'autre dans ce sens-là. Mais pour aboutir, il faut mettre des politiques dans le coup. Et ça, c'est très difficile. Et je vais vous raconter une anecdote qui est assez désespérante d'ailleurs. C'est que quand j'étais sur la fin de mes études à l'école et je travaillais chez Raymond Lopez, qui était un architecte assez bien placé dans le monde architectural de l'époque. Et il travaillait avec un homme politique qui était Bernard Lafaille. Bernard Lafaille était député de la Seine ou Paris, enfin je sais pas quoi. Et du coup, il fait une étude générale de Paris. Et ça se passait en 1952 ou 53. Et j'avais déjà des idées dans ce genre-là. Et comme c'est moi qui menais le projet, et avec une complicité totale avec Lopez d'ailleurs, et j'avais fait toute une série d'études très rigolotes. Par exemple, j'avais étudié l'occupation des locaux dans les différents arrondissements, suivant les étages. Les commerces à rez-de-chaussée, les étages des entresols avec des étages un peu de services complémentaires, l'étage noble avec des grands bourgeois, le quatrième et le cinquième avec d'autres bourgeois, et c'était l'époque, et au sommet, les chambres de bonne. Alors c'était marrant parce que le commerce c'était bleu par exemple, les grands bourgeois c'était rouge, c'était orange ensuite, et c'était terminé parce qu'il était affreux, les bâtiments, au partir du 8e, 9e étage des chambres de bonne, c'était vraiment noir. C'était les étudiants, les clodos, les pauvres gens qui pouvaient pas se loger, ils étaient là. Alors ça, c'était une première étude. J'avais fait une étude ensuite de la vétusté des bâtiments. J'avais une équipe de dizaines de gars qui travaillaient là-dessus. Alors on faisait des relevés et on avait relevé tout ce qui était vétuste à foutre en l'air. Et il y avait des zones bleues terribles. Moi, j'habitais le 15e arrondissement. Et à côté de chez moi, il y avait toute une zone bleue terrible. J'avais dit, parfait, le boulevard où passe le métro, c'est un axe qu'on peut plus changer puisqu'il y a le métro, etc. Mais après, il n'y a pas de hiérarchie, il faut retrouver des grands axes, etc. Et je prenais l'autobus pour aller à l'agence, boulevard Raspail, depuis le 15e où j'habitais. Et chaque jour, je pensais, je voyais des grues qui s'installaient quelque part. Je disais, merde, mon grand axe peut plus passer. Merde, je peux pas faire mon truc ici. Merde, cette place qui était prévue, il y a un gars qui est en train de construire à la place. Parce que ça construisait à tout berzingue en 1950. Et j'ai vu se détruire toutes les possibilités de mon plan au fur et à mesure. Et puis un matin, j'arrive chez Lopez et je demande à le voir. Alors je vois Lopez, je lui dis, dites donc, c'est formidable. Lafaille a été nommé ministre hier. Je dis, alors notre projet, c'est du tonnerre. Il me dit, oui, ben vous passez voir la secrétaire, elle va vous régler les dernières heures qu'on vous doit. Je dis, ah bon, pourquoi? Il me dit, ben il est ministre. C'était pour ça qu'on faisait le plan, pour qu'il puisse être ministre. Maintenant qu'il est ministre, il n'y en a plus rien à foutre.
Eh bien, bravo. Merci beaucoup d'être venu dans ce studio, Monsieur Folliasson, Monsieur Féer. Bonne chance à vous.
Merci.
Je voudrais quand même dire quelque chose. Je ne voudrais pas rester sur cette impression sinistre que je vous ai évoquée par cette anecdote. Je veux dire que plus que jamais, les possibilités sont grandes pour reprendre des projets comme refaire la ville de Paris. Ce qui nous manque actuellement, c'est vraiment des hommes politiques qui croient à la vertu que peut avoir le développement d'une capitale qui a un potentiel inouï qu'est Paris.
Merci beaucoup, Monsieur Folliasson. À bientôt.